Bonsoir, situation sécuritaire au nord qui vous. Le M23 a commencé une campagne contre la résolution 20 nommant fut du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit l'envoi d'une brigade d'intervention pour neutraliser ce groupe d'armées actif en RDC. Les dernières faits en date sont le blocage d'une dizaine de véhicules de la MONUSCO à Rutshuru et l'organisation d'une marche forcée de la population civile à Nyiragongo. Aussi, ce mouvement rebelle a écrit aux parlementaires sud-africains pour qu'ils découragent leur armée de participer à la brigade d'intervention des Nations Unies en RDC. Que l'analyse sert de l'attitude du M23. Pour en parler, nous recevons comme invité Mademoiselle Mounoubaï, porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO. Monsieur Mounoubaï, bonsoir.
Bonsoir.
Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs.
Maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la Société civile du Nord Kivu. Maître Kavota, bonsoir. Voilà, la réalisation du signal que nous allons l'avoir dans un tout petit moment. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Honorable Katrin Bomouzé, la dynamique actuelle sur le plan international est telle que nous devons, dans la sous-région des Grands Lacs, comprendre que la guerre doit appartenir au passé. Le M23 a intérêt à s'inscrire dans la logique de l'accord cadre. Kalomboy de Kalino Katanga, la fuite en avant du M23 montre à suffisance l'attitude négativiste et hautaine des dirigeants de ce mouvement. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nord Kivu, les 11 véhicules de la MONUSCO qui étaient bloqués depuis quelques jours dans une barrière érigée par le M23 dans le territoire de Rutshuru ont été libérés. L'information est confirmée par les sources onusiennes. C'est une équipe de la MONUSCO venue en renfort qui a finalement débloqué la situation pour libérer cet après-midi ces véhicules transportant du matériel de construction destiné à la MONUSCO. Le point avec vous, Jacques-Yves Molima.
Le président du M23, Bertrand Brissimois, a indiqué que c'est après vérification que ces véhicules ont été autorisés à poursuivre leur route jusqu'à Goma. L'ensuite affirme que l'un des conteneurs a même été ouvert, comme le réclamait le M23. C'est depuis dimanche que les 11 véhicules en provenance de Beni et transportant du matériel destiné à la MONUSCO ont été interceptés par le M23. Le motif était que ces véhicules transportaient du matériel militaire pour la brigade d'intervention destinée à combattre les groupes armés à l'est de la RDC. 5 des véhicules étaient bloqués à Kiwanja, à 75 km de Goma, dans le territoire de Rutshuru. 6 autres à Kibumba, à 30 km de Goma, en territoire de Nyiragongo. D'après certaines sources, 4 autres véhicules avaient toutefois réussi à traverser cette zone occupée par le M23 et ont pu atteindre Goma le même dimanche.
Merci Jacques-Yves Molima, Nord Kivu toujours. Plusieurs personnes du territoire de Nyiragongo s'étaient déplacées depuis hier matin, et surtout des jeunes, une façon pour elles de se soustraire à la marche imposée ce mercredi par le M23 contre la brigade d'intervention de l'ONU. Gisèle Cage.
Selon plusieurs sources, ces populations en majorité des jeunes gens des groupements de Kibumba et Buhamba en territoire de Nyiragongo ont trouvé refuge vers Kabagana et Kabuhanga à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'est pour suivre la marche programmée ce mercredi par le M23, une marche qui devait partir de Kibumba pour Goma, soit un parcours d'environ 30 km à pied en territoire de Nyiragongo. La société civile du Nord Kivu interpelle à cet effet la communauté internationale. Omar Kavota est porte-parole de la société civile.
La population du territoire de Nyiragongo n'a pas voulu participer à cette marche, rien pour sa sécurité. C'est pourquoi la plupart des habitants ont fui vers les zones frontalières pour échapper à la colère de Makenga et ses hommes. Nous nous inquiétons pour leur situation et nous en interpellons les Nations Unies et les autres partenaires de la CIRGL face à ces menaces contre la population que le M23 est en train de multiplier pour amener la population à s'opposer à cette brigade des Nations Unies.
Le nombre de protestataires n'est pas encore connu. Un notable de Nyiragongo indique que, suite à cette situation, le M23 a annulé cette marche. Elle est toutefois reprogrammée pour dimanche prochain, précise la même source. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Merci Gisèle Cage, Madino Djomounouba. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC MONUSCO, véhicule de la MONUSCO intercepté puis libéré par le M23. Qu'est-ce qui s'est réellement passé?
C'est comme vous le dites, ce sont des véhicules qui transportaient du matériel de construction de la MONUSCO, des véhicules qui étaient à bord de non pas des véhicules de la MONUSCO, mais à bord de véhicules de contractuels qui donc transportaient ça, et ces véhicules ont été interceptés illégalement par le M23, comme l'a si bien dit notre collègue dans son reportage. 5 véhicules étaient à Kiwanja et 6 à Kibumba. Ils ont été bloqués par le M23 qui voulait absolument savoir quel était son contenu.
Alors, quand on dit des sources onusiennes qu'il s'agit d'une équipe de la MONUSCO qui est venue en renfort, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu accrochage, échange de tir? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, d'après les informations en ma possession, après que un de ces conteneurs ait été forcé, parce que c'est ce que les M23 fait, ils ont forcé un de ces conteneurs, ils ont regardé son contenu, ils ont par la suite décidé que ces véhicules pouvaient reprendre la route. Il semblerait qu'à un moment donné, les M23 auraient changé d'avis et voulaient encore bloquer à nouveau ces véhicules. Et à ce moment, on a été obligé d'envoyer une patrouille militaire pour les escorter jusqu'à Goma.
Escorter après échange de coups de feu ou escorter après simple négociation?
Non, il n'y a pas eu une négociation. L'escorte est venue et je dirais qu'il y a eu une démonstration de force pour permettre à ces véhicules de continuer leur route sans être arrêtés à nouveau.
Et donc la MONUSCO a fait usage de sa puissance de feu?
Je vous dirais qu'il y a eu une démonstration de force.
Il y a l'assistant, lui, à Lubaki, qui nous écrit de Kindo Manima, qui dit « Je pense que ce comportement du M23 doit pousser l'ONU à prendre des mesures de coercition plus efficaces contre ce mouvement, car c'est plus grave pour une si grande organisation d'être humiliée par une force négative qui procède à la saisie, à la confiscation des matériels de l'ONU, et de l'incongruité que le M23 utilise comme stratégie d'anéantissement des actions de l'ONU. Est-ce une humiliation, Madeleine Moulubaï, pour la MONUSCO? »
Ben non, c'est pas une humiliation. Nous savons qu'aujourd'hui, le M23 a pris conscience de ce qu'il attend dans les jours à venir avec la venue de cette brigade d'intervention. Une fois qu'elle serait en place et qu'elle va commencer sa mission, je pense que pour le M23, la récréation sera finie. La mise en place de cette brigade est une manifestation que la communauté internationale est à bout de patience avec tous ces groupes armés, pas seulement le M23, mais tous ces groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo.
Alors, à travers une campagne qu'elle a lancée contre la résolution 2098, qui en sort une brigade d'intervention pour neutraliser les groupes armés actifs en RDC, le M23 stigmatise cette unité qu'il accuse de vouloir insécuriser la population du Kivu. Quelle est la réaction de la MONUSCO?
La population du Nord Kivu, et en particulier celle qui est dans les régions ou dans l'espace qui est contrôlé par le M23, est déjà insécurisé. Et cette insécurisation n'est pas le fait ni de la communauté internationale, ni de la MONUSCO. Ce sont les troupes du M23 qui ont insécurisé cette population, qui les ont mis sur la route, qui ont créé un nombre, qui ont ajouté encore d'autres personnes parmi les déplacés. Ce n'est pas le fait de cette brigade d'intervention qui n'est toujours même pas en place. Donc, je vois que le M23 voudrait déplacer la responsabilité pour les mettre sur la brigade d'intervention qui n'est toujours pas en place, alors que la population est déjà insécurisée par le M23.
Alors, un courrier a également été adressé au coordonnateur, a été adressé aux parlementaires sud-africains par le M23. Il n'y a-t-il pas des craintes que l'on pourrait avoir maintenant de Monubaï quand on sait ce qui s'est passé par rapport au contingent sud-africain ici à côté en Centrafrique?
C'est de la diversion. Je pense que le gouvernement sud-africain a pris une décision dans le cadre de la SADC et en solidarité avec les autres pays de la SADC. L'accord cadre qui a été signé avec les pays, essentiellement les pays de la SADC, énonce un certain nombre de principes. La non-ingérence dans les affaires des autres, le respect des autres pays, etc. Donc, la SADC a demandé à un certain nombre de pays de contribuer des troupes pour cette force. Donc, il n'est pas question de dire aujourd'hui que les troupes sud-africaines qui vont venir ici viennent pour insécuriser quoi que ce soit. Ils viennent ici dans un cadre, je dirais, légal.
Gérard Kazingou, pour de Benin Nord Kivu, parler trop du M23, c'est lui accorder de l'importance. À partir du moment où le mouvement est qualifié de force négative par le Conseil de sécurité, tous les pays limitrophes, en commençant par le Rwanda, qui assume sa présidence, doivent disponibiliser des troupes pour les traquer en attendant le déploiement de la fameuse force, ou alors on doit cesser de nous distraire. Mabdoud Mounoubaï, est-ce que c'est faire l'apologie du M23?
Non, il n'y a pas de distraction là. Je pense que on a depuis très longtemps, la population au Nord Kivu a demandé aux Nations Unies d'utiliser des moyens de pression beaucoup plus forts pour mettre fin à l'existence de ces groupes armés qui les insécurisent. Maintenant, c'est fait. Donnons la chance à cette force de se déployer et de l'avoir sur le terrain avant de commencer à porter des jugements.
Alors, on sait également aussi que les Nations Unies suivent de près ce qui se passe à Kampala, mais la MONUSCO ne serait-elle pas gênée, Mme Mounoubaï, par un quelconque accord entre la RDC et le M23?
Non, voilà. Bien au contraire.
En tant que partenaire.
Non, il ne faut pas interpréter la résolution 2098 comme une résolution va-t-en-guerre qui ferme toutes les portes à l'utilisation de moyens pacifiques et de négociations. Bien au contraire, en mettant la pression, en renforçant les moyens d'intervention militaire des Nations Unies, l'objectif est d'obliger ceux qui ne veulent pas utiliser les voies pacifiques à les utiliser maintenant. L'objectif est de leur dire que si vous vous engagez résolument dans les voies pacifiques, dans les voies du dialogue, nous n'allons pas utiliser les armes contre vous. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, de la 2098. Ce n'est pas forcément l'utilisation de la force.
Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, vous êtes le gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment vous analysez cette campagne menée par le M23 contre la résolution 2098?
Merci beaucoup. Je pense qu'on aura tout vu dans cette province du Nord Kivu. Une force négative mène une campagne contre une résolution des Nations Unies. Une force négative organise une marche en forçant les populations contre les Nations Unies. Une force négative qui bloque les véhicules des Nations Unies. Une force négative qui reste un parlement d'un pays. Je pense qu'on aura tout vu. Mais l'analyse qui ressort de ça, c'est qu'effectivement, le M23, sous attitude, est en train de vouloir démontrer qu'il se constitue comme un État. Lorsqu'il s'adresse aux autres États, au Parlement d'autres États, je crois que la première analyse qui ressort, c'est qu'effectivement, il se considère à travers son espace qu'il occupe comme un État s'adresser aux autres. La deuxième analyse, c'est de démontrer à l'opinion qu'il a de la pitié et de la compassion envers la population congolaise lorsqu'elle s'oppose à une force qui vient mettre fin à tout ce que nous avons connu comme problème. Ce sont les défis retient de ce comportement, comme si ce n'est pas le M23 qui est responsable du 4 novembre 2008, comme si ce n'est pas le M23 qui est l'origine de tout ce déplacement des populations de Rutshuru vers les centres de concentration avec près d'un million des populations, précise pas le M23 qui, effectivement, n'est pas à l'origine de tous ces morts qu'on a enregistrés lorsqu'il y a eu la guerre entre la faction post-contatante et celle du Makenga. C'est donc pour moi surprenant qu'aujourd'hui le M23 ait pitié du peuple congolais lorsqu'il apprend l'arrivée de la force internationale. C'est une grande première lorsqu'on voit les bourreaux en train d'avoir de la compassion envers leurs victimes. C'est selon les analyses positives de ce comportement auquel on assiste depuis quelques jours.
Monsieur le gouverneur, il y a Maurice qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Le gouvernement congolais doit apprendre à respecter ses engagements. D'où lui vient cette audace de décréter l'autodissolution du M23? Ignore-t-il les défaites militaires qui lui est infligé par ce mouvement, jusqu'à la crise de Goma, ne peut défaire que celui qui a fait. Cependant, je voudrais rappeler que la brigade d'intervention ne se substituera pas au FRDC. Que le gouverneur, certains observateurs pensent que c'était une grosse erreur de la part du gouvernement d'avoir demandé au M23 de s'autodissoudre en même temps qu'il dialoguait avec lui.
Du point de vue de l'analyse, j'estime que lorsque les deux membres du gouvernement ont parlé de l'autodissolution, c'est parce qu'ils considéraient qu'au sein du M23, il y a des Congolais. Et à l'arrivée,
monsieur le gouverneur,
était en train de démontrer.
Monsieur le gouverneur, je vous prie, si c'est possible, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de réseau, si c'est possible de bouger un peu parce que la qualité de votre ligne a tendance à se détériorer. Je vous en prie, allez-y.
Oui, je disais donc que l'attitude du gouvernement, pour moi, pouvait être compréhensible dans la mesure où le gouvernement sait très bien qu'au sein du M23, il y a quand même des éléments congolais. Et qu'à l'arrivée de la brigade d'intervention, si les offensives sont ouvertes, ce sont encore des Congolais qui vont mourir, alors que nous en avons déjà enregistré autant de morts. J'estime que la déclaration du gouvernement congolais, c'était effectivement cette pitié, cette compassion que le gouvernement a envers ces innocents qui ont été décrités au sein du M23, a-t-il demandé tout simplement de devoir abattre la logique de guerre, sinon il devait être confronté à cette brigade d'intervention qui viendrait probablement. Donc j'estime, à mon avis, que c'était comme un appel pressant à l'endroit de ces gens qui ont de la conscience et qui se retrouvent malheureusement au PDM 23, peut-être par le concours des circonstances, sans le vouloir, pour leur demander désormais de quitter, parce que le jour où la brigade va arriver, au regard de la résolution 2018, elle dit qu'elle va utiliser la force, et ce sont encore des Congolais qui vont mourir. Donc j'estime que c'est un appel tout à fait responsable de la part d'un gouvernement qui voudrait voir ce mouvement s'autodissoudre et empêcher ainsi.
Allô, monsieur le gouverneur. Voilà, on n'a pas compris. La réalisation va tenter de vous rappeler pour améliorer la qualité de votre ligne. Maître Omar Savota, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir, David.
Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de la Société civile du Nord Kivu. Vous figurez parmi les premières organisations à avoir dénoncé cette campagne du M23. Qu'est-ce qui vous inquiète?
Merci, M. Albert. Permettez que je commence par saluer son excellence, M. le gouverneur, et M. Manoj Moubaï, avec qui nous serons dans cette émission, et tous les auditeurs de dialogue entre Congolais. En dire vrai, nous sommes inquiétés. Nous sommes inquiétés parce que nous sommes en train de réaliser que le M23 est en train de cracher sur les Nations Unies. Il est en train de déclarer la guerre contre tous les États du monde qui cherchent à pacifier l'Est du pays et particulièrement notre province. La semaine passée, nous avons assisté à une très grande campagne d'intoxication de la population des hommes sous l'habitation de M23 pour que cette population s'oppose au déploiement prochain de la brigade d'intervention des Nations Unies. Jeudi dernier, on a vu des meetings populaires être organisés à Kiwanda et à Rutshuru par les chefs politiques du M23, qui appelait la population à s'opposer énergiquement à cette brigade d'intervention parce que c'est l'ONU, si la population l'accepte, elle se sécuriserait et on va assister à des morts. Le vendredi suivant, il a organisé de mêmes séances dans les territoires de Nyiragongo, particulièrement dans les groupements de Buhumba, à l'Epenour, pour ceux qui connaissent Buhumba. Le dimanche suivant, c'était dans d'autres groupements et particulièrement à Kiba qui est à Kanyarushinya. Et mardi dernier, c'était une marche avortée parce qu'il avait déjà obligé toute la population des groupements de Burumba et des groupements de Kibumba à manifester de Kibumba jusqu'à Goma pour s'opposer à cette force. Et la manifestation devait déboucher par un jet de pierre sur les éléments de la MONUSCO à Kanyarukinya ou à ville de Goma. Ça, malheureusement, heureusement pour nous, la population s'y est opposée et elle a su fuir cette manœuvre du M23 et c'est pourquoi nous avons dénoncé ce que le M23 est en train de faire et nous sommes en train de réaliser effectivement que le M23 démontre qu'il est un groupe terroriste, un groupe dangereux, un groupe criminel et une force négative qu'il faut combattre parce que c'est la vie de la population qui est en danger maintenant.
Et donc, de votre point de vue, est-ce que vous pensez que cette campagne du M23 pourrait porter ses fruits ou elle est simplement vouée à l'échec?
Bon, nous sommes en train de réaliser que elle peut ne pas aboutir, elle peut ne pas porter ses fruits, mais elle est en train d'illustrer quelque chose. Nous sommes en train de constater que cette campagne démontre l'arrogance, l'entêtement du M23. Et son arrogance et son entêtement, nous pensons que ce n'est pas gravi, parce que il est en train d'orchestrer des actes de sabotage, des actes de provocation, des actes d'humiliation des Nations Unies à travers la MONUSCO qui est ici. Il est en train d'effrayer la population et même chercher à effrayer le gouvernement pour que cette population et ces gouvernements cèdent aux revendications du M23 avant l'arrivée de cette force. Et également, nous sommes en train de nous dire que cette campagne est en train de démontrer que le M23 a les assurances de ses alliés. Et parmi ses alliés, vous savez, il y a l'un qui préside la CIRG et il y a l'autre qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le patron de la MONUSCO. Nous nous disons que ces actes-là doivent interpeller les Nations Unies pour qu'on sache que le M23 n'est pas disposé à faire la paix et qu'il est très urgent qu'il soit dissous, qu'il soit éradiqué aussi que les autres groupes armés, parce que il représente un danger permanent pour la population du Nord Kivu et la population de l'Est.
Il y a Soyeux Ntoumoua qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Cette attitude ambiguë et désespérée du M23 ne surprend personne et elle devrait arriver car le gouvernement leur a offert du gâteau sur un plateau en les laissant grandir pour enfin discuter avec eux, pourtant n'ayant aucun agenda concret à mettre Kavota. »
Oui, c'est pourquoi nous pensons que, comme l'auditeur le dit, c'est inacceptable que le gouvernement, qui est en train de voir tout ce que le M23 fait, engage de nouveau pour parler à Kampala. Nous sommes en train de nous dire que ce que le M23 est en train de faire, c'est pour amener à ce que le gouvernement accepte d'intégrer ces hommes dans l'armée, dans la police et dans les institutions politiques. Et malheureusement, on a toujours vu que dans la plupart des cas, face à des intimidations de ce genre, c'est le gouvernement qui a été toujours le premier à céder avant que la population ne cède. Nous, la population, nous sommes disposés. Vous avez vu l'attitude que nous, la population, nous avons fait montre mardi dernier en refusant, en fuyant cette méthode du M23. Et si nous, la population, nous pouvons savoir empêcher le M23. Et donc, le gouvernement n'aura pas raison de poursuivre, pour parler avec le M23. De signer des accords avec lui et plus tard de l'intégrer dans l'armée, dans la police et dans les institutions politiques. Nous pensons que réellement le gouvernement doit prendre au sérieux cette façon de voir les choses de la population pour qu'il ne puisse pas arriver à intégrer le M23 dans les institutions politiques et dans l'armée parce que l'enjeu de tout ce qui est en train de se faire, c'est cela, parce que le M23 cherche réellement à intimider tout le monde pour démontrer qu'il a plus de force et qu'il soit intégré avant qu'il ne soit éradiqué par la force.
Maintenant, Jérôme Mounoubaye, porte-parole de la MONUSCO, il y a, vous venez de citer M. Kavota qui dit que l'arrogance du M23 n'est pas gratuite. Le M23 a les assurances de ses alliés, notamment le Rwanda qui préside le Conseil de sécurité, l'Ouganda, la CIRGL. Quelle influence cela pourrait-il avoir, d'après vous? Bon, je ne sais pas quelle influence cela va avoir. Dans tous les cas, le Conseil de sécurité a parlé. Le Conseil de sécurité, disons, a donné les instructions nécessaires. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est plus qu'une question de jour. La brigade d'intervention sera mise en place avec un mandat très précis, celui de traquer et de neutraliser tous les groupes armés. Et parmi les groupes armés énumérés, il y a le M23, d'autres étant le FDLR, les forces démocratiques alliées, l'ACPLS, le LRA, certains groupes Maïmaï, tous ces groupes armés qui insécurisent la population à l'est de la République démocratique du Congo seront traqués et neutralisés. Le Rwanda préside le Conseil de sécurité. Pour l'instant, le Rwanda allié du M23 n'est-ce pas une attitude paradoxale? Non, il n'y a rien de paradoxal. Vous savez, la présidence du Conseil de sécurité est assurée d'une façon tournante pendant un mois dans l'ordre alphabétique. Le mois dernier, c'était la Russie. Ce mois, c'est le tour du Rwanda dans l'ordre alphabétique.
Peut-on parler d'une mauvaise coïncidence?
Oui, c'est une mauvaise coïncidence, mais cela ne donne pas un rôle particulier au Rwanda pour influencer en quoi que ce soit le calendrier, le travail, les décisions du Conseil de sécurité. Le Rwanda est un membre non permanent, un mandat limité dans le temps. Le Rwanda n'est pas un membre permanent du Conseil de sécurité. Il ne faut vraiment pas lui donner trop d'importance ce qu'il n'est là sur le Conseil.
Et donc concrètement, le Rwanda ne peut rien influencer.
Je ne pense pas que l'influence que le Rwanda aura une influence qui peut changer quoi que ce soit dans la façon la communauté internationale ou le Conseil de sécurité en entier entend mener les opérations en République démocratique du Congo pour renforcer la paix et la sécurité.
Alors, je reviens sur la réaction de Maurice de Kinshasa dans sa dernière partie qui disait « Je voudrais rappeler que la brigade d'intervention ne se substituera pas au FRDC. » Madame Jumulubai, nous avons reçu beaucoup de questions des auditeurs qui se disent que finalement, avec tout ce qui est dit autour de cette brigade d'intervention, on a l'impression que les FRDC n'auront plus de travail.
Non, on ne peut pas dire ça. Parce que le FRDC, c'est le rempart, le bouclier premier de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de ce pays. Le rôle de la brigade d'intervention, qui fait partie intégrante de la MONUSCO, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas deux MONUSCO avec une brigade d'intervention et une autre, c'est une seule MONUSCO, la brigade d'intervention relevant du commandant de la force de la MONUSCO, donc de ce commandement unique. La brigade d'intervention aura mandat de mener des opérations unilatérales, mais aussi des opérations conjointes avec les FRDC. Donc les FRDC ne sont pas mis sur la touche. Les FRDC demeurent la force principale dont leur mission est la protection de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Mais il faut signaler que la brigade pourrait agir avec ou sans les FRDC.
Exactement. C'est une question de réaction. S'il y a une réaction. Parce que lorsque vous avez deux forces qui doivent travailler ensemble, il faut qu'il y ait une planification commune et cela prend le temps. Et quelquefois, il y a des opérations qui vous demandent de réagir très rapidement. Et dans ce cas, je pense que la brigade a reçu mandat de faire ces opérations unilatérales.
Janvier de Kikwit, quand on dit que le mandat de la MONUSCO a changé par la brigade d'intervention, qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que toutes les forces de la MONUSCO peuvent se battre maintenant?
Oui et non.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, la nouvelle brigade, la brigade d'intervention, a reçu un mandat spécifique, celui de rechercher, traquer et neutraliser les groupes armés. Mais le reste des forces de la MONUSCO a toujours ce mandat de protection des civils. Et dans ce cadre, ces forces sont autorisées à utiliser leurs armes lorsque c'est nécessaire, lorsque ces civils sont menacés et lorsque cela est justifié.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, est-ce que vous nous suivez?
Oui, j'ai aussi très bien.
Le chef des travaux, Jean-Bernard Mibeko, ici à Kinzeku de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, dit « Le M23, fort de ses appuis, défie la communauté internationale, l'est de la RDC, est une zone où plusieurs intérêts sont en jeu, et le M23 n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Sa décapitation signifie la fin des affaires juteuses pour certaines personnes, ce qui justifie toutes ces gesticulations. Le M23 a intérêt à se transformer en parti politique avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Je pense que depuis longtemps, c'est un point de vue que j'ai toujours partagé lorsque je disais il y a quelques temps que le M23 était un arbre qui cachait la forêt, effectivement. Mais je pense qu'au stade actuel, il n'y a pas de précipitation pour le M23 se transformer en parti politique parce que je ne vois pas un gouvernement aujourd'hui en train d'agréer de façon précipitée des partis politiques qui auraient pour origine le M23. Ce qu'il doit faire, comme l'a recommandé le gouvernement, c'est de cesser d'exister comme mouvement politico-militaire tout simplement et peut-être sans incident, cela lui vaudrait beaucoup parce que j'ai quand même de la pitié envers son président actuel qui est venu prendre un mouvement sanctionné déjà par les Nations Unies parce que comme vous le savez, en décembre 2012, il y a eu une innovation dans les Nations Unies où, au-delà des sanctions qui étaient destinées envers les personnes, cette fois-ci, on a sanctionné le M23 comme mouvement. C'est-à-dire toutes les personnes qui se retrouvent sont d'office sanctionnées par les États-Unis, ou les Nations Unies, de par ma compréhension. Et donc le président actuel est venu prendre une machine sanctionnée déjà au départ, et lui est sanctionnable par son appartenance à ce mouvement-là. Donc je considère que c'est quand même des Congolais qui pourtant réfléchissent, mais qui entrent dans un haut fourneau, dans une je ne sais pas quel terme utiliser, ils entrent dans une machine qui va les broyer dans les jours qui viennent. C'est quand même surprenant pour des intellectuels congolais qui devaient pourtant se rendre compte que ce n'est plus l'occasion aujourd'hui de devoir s'affilier au M23 qui est condamné par les Nations Unies de par la décision qui est sortie en décembre 2012.
Monsieur le gouvernement, vous dites que vous ne voyez pas un gouvernement agréer le M23 comme parti politique, mais on se souvient que le CNDP, qui a suivi le même schéma et devenu parti politique et même membre de la majorité présidentielle, les accords de Kampala ne donneraient-ils pas lieu à cette assertion?
Dans la mesure où quelqu'un cesse de prendre les armes, le gouvernement sera prêt à devoir examiner toute candidature. Mais aussi longtemps que quelqu'un détiendrait les armes et utiliserait cela comme pression pour se faire appeler comme parti politique, je ne pense pas qu'un gouvernement puisse adopter cette attitude. Dans une des émissions, j'avais développé une théorie que j'avais appelée la théorie de la peur, qui ne nous a jamais apporté de solution. Et je pense que le gouvernement devra tirer des conséquences par rapport aux comportements antérieurs qui ont été adoptés. C'est-à-dire, à la suite des peurs que nous avons eues avant, nous avions adopté des comportements, on a agréé déjà comme des partis politiques, mais ça n'a pas résolu la crise congolaise. Donc, je considère que la résolution de la crise congolaise a pris une autre allure, à savoir celle de l'avènement d'une brigade d'intervention qui vient aider à mettre un terme à toute gesticulation qu'il y a dans notre pays, tout en donnant l'occasion au gouvernement congolais de créer une force d'intervention rapide. Parce que moi, quand j'ai lu l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution, il est demandé également au gouvernement, en même temps que la force sera en train de faire son travail, de créer à l'intérieur du pays une force d'intervention rapide qui devra assurer les relais une fois la force rentrée chez elle. Je vois que ce sont ces manœuvres-là sur lesquelles nous devons mettre beaucoup plus d'accent au niveau interne au lieu de devoir commencer à donner de l'occasion aux gens à venir au gouvernement ou à créer des partis politiques, alors que demain, après demain, on peut encore revenir à la case de départ.
Peter nous écrit de Guémena dans la province de l'Équateur. Il dit que le gouvernement se comporte en bon père de famille. La force d'intervention ne restera pas éternellement au Congo. Que le gouvernement accepte de négocier avec le M23 pour sauver cette pauvre population des Grands Kivu, monsieur le gouverneur.
Le gouvernement ne peut que se comporter comme bon père de famille parce que c'est cela son rôle. Et les enfants égarés, et les bons enfants, il doit les approcher. C'est la raison pour laquelle il tente de convaincre les enfants égarés qui se retrouvent au sein du mouvement M23 de revenir à la raison. Si du moins les enfants s'empêchent, je pense que le gouvernement devra tirer les conséquences. Ce sera la démarche que le gouvernement est en train de faire. Ce n'est pas un sentiment de faiblesse, à mon avis, c'est tout simplement une compassion avec des Congolais à qui on demande de revenir parce qu'on voit la fête prochaine. On se dit, mais pourquoi ces enfants vont souffrir demain alors qu'il y a une possibilité pour eux de devoir revenir à la maison et partager à la vie nationale comme tous les Congolais. C'est ce plan d'analyse que les Congolais doivent avoir et non pas tout le temps continuer à être des pessimistes, quoi, que rien n'est possible, que le gouvernement a offert je ne sais pas quel type d'occasion M23 de se reconstituer. J'estime que c'est un comportement tout à fait normal d'un gouvernement qui voudrait ramener ses enfants au bercail lorsqu'il trouve que ses enfants ont emprunté une voie qui n'est pas la bonne.
Monsieur le gouverneur, très brièvement, Maître Cavot a dit tout à l'heure que le M23 avait les assurances de ses alliés, que c'est ce qui justifierait son arrogance. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, comme on le dit dans le jargon populaire. Tout le monde sait d'où est venu le soutien du M23, toute la force que le M23 a développée en novembre 2012. Et qu'aujourd'hui, j'estime que les alliés du M23 se retrouvent un peu en mauvaise position par rapport à la présidence qu'ils occupent au niveau du Conseil de sécurité. Parce que lorsqu'on est président du Conseil de sécurité, on jure devant le monde entier qu'on œuvre en faveur de la paix. Et on ne doit pas faire une chose au contraire, c'est-à-dire œuvrer en faveur de la paix et en même temps être pyromane dans la région. Je crois que c'est cela la mauvaise position dans laquelle se trouve l'allié d'hier, du M23, qui naturellement est en train de considérer que le monde entier se retrouver en train de soutenir la RDC dans ses efforts de pacification, qu'il ne doit pas se constituer seul en obstacle pour amener la paix dans la région. Parce que vous savez, le slogan qui a toujours été sorti dans cette région, c'est que le FDLR constitue un danger pour la RDC, pour le Rwanda, pour toute la région.
Merci.
Lorsque la force vient éliminer cette menace, je ne vois pas un pays qui va s'opposer à cela, parce qu'il a toujours avancé ces motifs-là comme étant l'objet de la déstabilisation. Aujourd'hui,
merci,
nous sommes heureux que les Nations Unies reviennent elles-mêmes à la raison pour que, à travers une brigade d'intervention, on vienne mettre fin à tous ces éléments qui ont longtemps constitué le prétexte des pays voisins, usant des droits de poursuite, disent-ils, à venir dans notre pays.
Merci, M. le gouverneur. Maître Omar Kavota et Joël Boussibo, qui nous écrit de Butembo, au Nord-Kivu, qui dit « Les partisans du M23 n'avaient pas eu peur de s'insurger contre tout un gouvernement avec une grande armée. Le sachant bien, pensez-vous qu'ils craindront de s'opposer à une force multidisciplinaire de 3000 hommes ?» Cette crise ne trouvera pas solution tant que la question n'est pas encore réglée en interne. Il parle d'un dialogue franc et inclusif. Maître Kavota.
Non, mais nous pensons que si dialogue franc et inclusif il faut, ce n'est pas avec ceux qui choisissent la violence armée comme mode de revendication et d'accession au pouvoir. Nous nous disons, il est temps, si le M23 est pris de paix, qu'il arrive à s'autodissoudre. Et là, il va démontrer à l'opinion qu'il n'a pas choisi la violence armée. Nous, ce qui nous inquiète maintenant, et ce que nous nous posons comme question, c'est de voir pourquoi le gouvernement qui reconnaît au M23 sa qualité de force négative, pourquoi le gouvernement qui reconnaît que le M23 c'est un groupe déstabilisateur, pourquoi le gouvernement accepte-t-il encore de poursuivre les forces armées avec le M23? Alors qu'on sait que pour le M23, la finalité, c'est soit d'être intégré dans l'armée, soit dans la police, soit dans les institutions politiques. Et nous avons toujours soutenu que le M23 n'a reçu le mandat de personne pour légitimer son existence. C'est au M23 de choisir sa voie, soit il s'autodissout, soit il engage la guerre contre les Nations Unies. Et là, nous pouvons être fiers d'assister à cette guerre parce que le M23, parce qu'il est devenu fort que tous les États du monde. Mais nous pensons que c'est inadmissible que le gouvernement soit le premier ferré. Et là, je veux revenir sur la notion de son excellence, monsieur le gouverneur, la notion de la peur. On a intégré combien de fois des groupes armés? Ça n'a pas résolu les problèmes sécuritaires. On l'a fait pour l'RCD, on l'a fait pour le CNDP. Aujourd'hui, les groupes armés,
Aujourd'hui, si on le fait avec le M23, c'est avec quel résultat? Nous, la population, nous ne sommes pas peureux. Nous sommes les premiers courageux. Il serait donc ridicule si c'est le gouvernement qui est le premier peureux et qui arrive à intégrer le M23 dans l'armée, dans la police et dans les institutions politiques, alors qu'il mérite ce sort, c'est d'être dissous. Ce sort, c'est que ces éléments qui ont commis des abus répondent de leur fait devant la justice. Et ça, c'est ce que la population attend.
La République sud-africaine a embarqué en début de cette semaine plusieurs tonnes de matériel militaire de sa base de Bloemfontein à Pretoria à bord des cargos russes à destination de l'est de la RDC via l'Ouganda. C'est du moins ce qu'a rapporté mardi l'agence de presse sud-africaine SAPA. Information relayée par d'autres médias étrangers. À Goma, cette information suscite déjà des réactions. La dernière en date est celle du parti politique SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement. Son porte-parole dans la capitale nord-kivoussienne qualifie cette décision de nouvelle manœuvre dilatoire qui ne profitera pas aux Congolais. Badoz Christian est au micro de Bernard Nyangi.
La résolution 2098. Prévoit au paragraphe 9 que le quartier général de cette brigade doit être à Goma. Mais c'est une surprise pour nous d'entendre que l'Afrique du Sud a commencé à déployer ses matériels à l'Ouganda. Pour nous, nous disons, l'Ouganda accusé comme un pays agresseur. La fois passée, nous avons crié de la manière dont le dialogue s'est déroulé à Kampala. Et comment encore la même Afrique du Sud va encore déployer ses matériels à l'Ouganda? Pour nous, nous qualifions cela une manœuvre dilatoire avec Ban Ki-moon et le chef d'État. Nous avons vu la position de l'Afrique du Sud, c'était une position morose et de cette manière, nous ne pouvons jamais leur laisser une carte blanche, car nous comprenons dans les sillages des internationaux, ils n'ont pas réellement besoin que la paix revienne dans la RDC.
Maître Kavota, brièvement, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Quelle est la réaction de la société civile du Nord Kivu?
Non, nous pensons que le Rwanda, l'Ouganda, nous l'avons toujours identifié parmi les alliés du M23. Et lorsque ces matériels sont transités par l'Ouganda, c'est permettre à ceux qui sont ces alliés, s'ils seraient sages, ceux qui entrent, et ça se prépare à conséquence, comme ils ont déjà déclaré la guerre. Et c'est à ce niveau que nous sommes en train de penser que les Nations Unies devaient observer ces vérités dans la voie de cette brigade d'intervention et considérer l'Ouganda et le Rwanda comme état des États qui jouent à l'hypocrisie à faveur du M23. Et donc, ce serait pas élégant de transiter par ces États pour venir traquer leurs alliés.
Et en guise de conclusion, Maître Omar Kavota, par rapport à cette campagne du M23 contre la résolution 2098 et par rapport à la suite des événements, quelle est votre conclusion?
Nous appelons le gouvernement congolais à observer trois choses, donc accélérer la réforme des forces et services de sécurité pour répondre efficacement aux besoins de protection des citoyens et éviter de négocier avec le M23, éviter de l'intégrer dans l'armée, dans la police, dans les institutions politiques. Considérer que cette résolution 2098 a mis fin au pourparlers de Kampala parce que le M23 est en train de terroriser la population. On doit mettre fin par la force à cette force. Et aux Nations Unies, de faire des célérités pour que cette force vienne le plus tôt. C'est considérer que le Rwanda et l'Ouganda ne doivent pas être pris pour ce moment comme partie à la solution parce qu'ils sont eux-mêmes soupçonnés. Et donc, à arriver à les écarter plus ou moins des milices doivent être prises pour permettre à ce que la force, la brigade réussisse sa mission.
Alors, très brièvement, Marc Avota, pour vous, puisque le gouvernement tient au pourparlers de Kampala, quelle forme devrait prendre cet accord, si accord il devrait y avoir?
Non, mais quelle forme il faudrait prendre? Il devrait prendre cet accord. Nous ne voudrions pas d'abord attendre qu'il y ait accord entre le M23 et le gouvernement, parce qu'un gouvernement responsable, un gouvernement périlleux ne peut pas faire des accords, ne peut pas signer des accords avec un groupe, une force négative. Nous voudrions que ceux qui ont des revendications les fassent à travers la concertation nationale qu'a promis le chef de l'État, et l'État est en train de passer. Nous voulons voir que cela soit organisé le plus tôt. Et ce n'est pas avec ceux qui ont pris les armes, ce n'est pas ceux qui choisissent, c'est la violence armée comme mode de revendication de la question au pouvoir.
Merci, M. Kavota. Maintenant, John Mounoubaï, une réaction par rapport à ce matériel qui transiterait par l'Ouganda, ainsi de suite.
Oui, j'aimerais que les esprits se calment. Comme vous le savez, l'aéroport de Goma avait subi et maintenant a été réduit par les laves qui ont coulé là-dessus. Les gros porteurs ne peuvent pas s'y poser. Il est tout à fait normal qu'on cherche un autre aéroport pour déposer tout ce gros matériel et ensuite les amener sur Goma. Pourquoi pas Kinshasa, par exemple? Mais il y a une distance. La distance est beaucoup plus grande entre Kinshasa et Goma par rapport à Entebbe. Et il y a un coût pour tout cela. Donc, il faut voir aussi le côté coût. Alors, en guise de conclusion, un mot à tous ces compatriotes qui sont en train de vous suivre et qui aimeraient avoir des assurances aussi de la MONUSCO. Ben, les assurances, c'est que la position de la communauté internationale est claire. L'engagement de la communauté internationale reste intact. Cette brigade d'intervention a reçu le mandat de venir de traquer et de neutraliser les groupes armés. Les troupes sont déjà trouvées, donnons-leur le temps de venir et de commencer le travail. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, juste un mot pour terminer.
Oui, je pense que le fait pour le matériel de transiter en Ouganda, les Nations Unies sont en train de mettre à l'épreuve la bonne foi de l'Ouganda parce qu'il a été cité parmi les alliés du M23. Et j'estime que c'est une bonne chose que l'Ouganda ait accepté que le matériel transite pas au territoire, c'est un matériel qui devra traquer les éléments qui hier étaient considérés comme alliés.
Merci, monsieur le gouverneur.
Je voudrais demander à tous les enfants qui sont encore en M23 que le temps est venu pour qu'ils échappent à la mort, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils comprennent.
Merci, monsieur le gouverneur. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bon, c'était le programme sur la radio de la paix. Au revoir.